marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut toujours qu'il y ait une petite part de mystère dans l'histoire, sinon ça vaut pas la peine d'en faire.
Le témoin de ce vendredi, Patrice Fava, l'usage du Tao.
Je crois qu'il faut voyager, les boxeurs diraient, en garde basse. Alors on prend des nions, mais on reçoit aussi des cadeaux. Si on voyage en garde haute, autant rester chez soi. Et je crois qu'on décide très peu de choses lorsqu'on voyage, et je pense que lorsque je disais dans l'usage du monde qu'un voyage se passe de motif et qu'il se suffit à lui-même, je le pense absolument. Je pense que c'est comme une sorte de dieu autonome, et que si on cède à une certaine dérive, si on laisse le voyage à un certain moment décider pour vous, à ce moment-là, on voyage véritablement parce qu'on s'expose. Alors, ce n'est pas une morale du mérite, mais c'est davantage une morale de l'exposition.
C'était en exergue la voix de Nicolas Bouvier, qu'a bien connu notre invité Nicolas Bouvier, le grand écrivain voyageur qui recommandait donc un certain usage du monde qu'il fondait sur le décentrement. La méthode Bouvier s'avère assez nécessaire lorsque l'on va vers un autre pôle de l'humanité, ce qu'est la Chine. En Chine, l'usage du Tao est indispensable. Le taoïsme s'est maintenu contre vents et marées malgré les empereurs mandchous ou plus récemment Mao. Il se déploie même de nouveau, mais comment le définir? Comment même traduire les mots qu'utilise son innombrable tradition textuelle humaine? La méthode de Patrice Fava va peut-être vous surprendre. Elle va nous mener à la façon d'un entrelacement, en Chine bien sûr, et dans la montagne ardéchoise. Vous apprendrez que la montagne ardéchoise et la peinture chinoise peuvent ne faire qu'une, c'est une affaire d'œil. Que la goutte d'eau qui tombe sur une feuille peut rendre le même son ici et là-bas. Ce qui compte davantage, c'est la contemplation de la largeur de la feuille. C'est une affaire d'oreille. En somme, la Chine, c'est certes un pays autre, mais c'est aussi un concept dans lequel on peut entrer par l'Ardèche. C'est une affaire de regard. Le voyage à l'extérieur vaut moins que la contemplation intérieure.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Patrice Fava, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez l'usage du Tao. Bon, je prononce mal, mais il faut bien qu'on s'entende. Hein. Il faudrait prononcer.
Oui, le mot a été francisé, le Tao, mais en chinois on dit le Dao.
Bien sûr. Vous publiez chez Lattès dans une collection qui s'ébauche et qui a déjà illustré un livre de votre vieil ami Simon Leys. Cet ouvrage, et en même temps, qu'est-ce que je lis ici ou là? J'exprime le souhait d'avoir le moins de lecteurs possible. Je vis privé de la conversation des hommes en général et c'est une libération. Je me demande si quelqu'un se souvient de moi, etc., etc.
Oui, parce que l'écriture de ce livre s'est faite d'abord dans la solitude, dans mon ermitage d'Ardèche, tout en écrivant sur d'autres sujets très sérieux, l'anthropologie, mes découvertes du taoïsme dans la province du Hunan. Donc ce livre, c'est des réflexions que j'avais mis bout à bout, tout en écrivant, en lisant, en écrivant. Et puis le hasard a fait que j'ai eu l'envie de mettre bout à bout un certain nombre de ces réflexions, et c'est devenu l'usage du Tao qui aujourd'hui est devant nous.
Et c'est un livre en flottaison, comme ça il n'y a pas de datation, on n'a aucune idée de l'âge que vous pouvez avoir, du moment où vous avez connu la Chine.
Vous savez ça, je crois que c'est l'influence du Laozi, hein. Le Tao de Ting, il n'y a ni date ni nom de lieu. Et puis ensuite, il y a un autre très grand, c'est Anabase de Saint John Perse, dans lequel il n'y a non plus ni référence géographique, ni nom d'auteur.
Ah oui, c'est Saint John Perse qui disait que c'était un malentendu d'avoir trop de lecteurs et qu'il souhaitait en avoir le moins possible.
Oui, parce que vous savez, un livre c'est une bouteille à la mer, et parfois elle n'arrive pas toujours sur les rivages qu'on souhaiterait. Et dans le petit monde de la sinologie, le taoïsme, finalement, c'est un peu aussi, comme en Chine, un peu la part maudite de la culture chinoise. Donc, je pense que ce livre va aussi faire grimacer quelques-uns de mes collègues.
Alors, la bouteille n'arrive pas où on l'attend, où on l'espère. Et c'est ainsi que, de passage à Pékin, il y a peu de semaines, Vous avez rencontré par hasard le président de la République française qui était en voyage officiel à la Cité interdite. Alors quand Donald Trump est en visite à la Cité interdite, c'est le numéro un chinois qui lui sert de guide. Et quand c'est Emmanuel Macron, c'est tout simplement Patrice Fava.
Ce serait trop rapide et superficiel pour dire ce que ça inspire. On est là avec aussi beaucoup d'humilité et de curiosité. L'humilité parce que... On ne peut pas prétendre en cerner les contours en si peu de temps, et c'est une visite qui permet de capter un peu de l'esprit du lieu et de la profondeur de la civilisation chinoise. Et c'est aussi la poursuite d'un travail de compréhension commune, et c'est d'ailleurs tout le travail que notre guide porte, tout ce que l'école française d'Extrême-Orient, la sinologie française-européenne porte. Je crois que cette compréhension mutuelle, c'est l'une des conditions aussi de la réussite ensemble, y compris à venir.
Donc, le membre de l'école française d'Extrême-Orient, le guide, c'est vous. Vous vous souvenez de Lao Tzu qui, l'empereur, envoie deux délégués, vous ne voulez pas devenir gouverneur, leur disent-ils, la tortue sacrée qui est capturée par votre roi, qu'il a mis en cage. Est-ce qu'elle était plus heureuse lorsqu'elle se traînait dans la boue? Et la réponse, c'est évidemment, elle était plus heureuse quand elle se traînait dans la boue. Et Lao Tzu, il refuse de devenir gouverneur.
On ne m'a pas proposé de poste à l'Élysée, mais évidemment, les taoïstes sont dans le wu-wei, dans le non-agir, la non-action, le nonchaloir, le pas de zèle, comme dit Simon Lès, le sans-artifice. Et c'est vrai qu'il ne collabore pas ou très peu avec le pouvoir. Mais néanmoins, le privilège d'avoir accompagné le président Macron dans la Cité interdite est pour moi un souvenir tout à fait inoubliable.
Pour nous accompagner, nous qui sommes innombrables à l'écoute de France Inter, deux, trois mots, le temps nous est compté. Lao Tzu, il y a aussi un grand homme qui est plus qu'un homme, d'ailleurs dans la tradition du Tao. C'est Zhuangzi, si je prononce bien.
Bien sûr. Dans l'histoire du taoïsme, bien sûr, et ce qu'on en connaît principalement, c'est les œuvres de Lao Tzu, le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, et puis le Zhuangzi. Mais en dehors de ces deux ouvrages, qui sont des ouvrages qu'on peut lire tout au long de sa vie et y trouver des choses nouvelles, et que j'utilise évidemment beaucoup dans mon petit bouquin, parce que si je m'installe en Ardèche, un peu comme un ermite, c'est aussi pour faire le chemin qui me rapproche de Zhuangzi. Parce que Zhuangzi, il est aussi lui habité par la nature, à la fois physique et métaphysique. Et donc il faut lire son œuvre, et j'ai appris à lire son œuvre d'une manière assez différente, en changeant de contexte, en me débarrassant, disons, d'un contexte universitaire, et en me rapprochant de lui à travers une expérience réelle.
Alors vous avez une maison dans laquelle il y a, j'imagine, beaucoup de livres de ceux qui constituent le canon du taoïsme. Il y a peut-être 1 ou 500 livres qui constituent ce canon. Et puis, quand vous vous levez le matin, vous regardez par le carreau de la fenêtre, c'est pas le temps qu'il fait que vous cherchez à connaître, vous cherchez à vous mettre au diapason du monde par le biais du paysage dans lequel vous vous inscrivez.
C'est ça, on pourrait dire, si on voulait résumer le concept qu'utilisent les taoïstes, je dirais c'est le Tianzhen Rui, c'est la communion avec la nature, la communication entre l'homme et le ciel. Voilà. Et donc, évidemment, vivre dans la nature, vivre dans la contemplation de la nature, d'abord c'est quelque chose qui ne se fait plus dans l'Occident, on a complètement changé d'ontologie. Donc le fait d'aller à la recherche de la pensée d'un grand philosophe comme Zhuangzi, en se replongeant dans la nature, finalement, je crois, produit quelque chose d'un peu différent.
La société a besoin de notre région, elle n'en a plus besoin pour son blé, puisque ça n'est pas rentable, ni pour sa vigne, mais pourquoi en a-t-elle besoin? Elle en a besoin pour sa beauté, son calme, sa solitude même, pour retrouver la dimension humaine.
Et l'eau est douce.
Eh bien, elle descend du plateau. On allait laver au ruisseau.
Vous l'avez fabriqué, le lavoir?
Oh, oui, c'est mon mari qui l'a fait. On a creusé, même moi je lui ai aidé au début, là, quand on était mariés. On allait laver au ruisseau là-bas. C'est pas commode d'aller.
Ce qu'il y a, c'est qu'en Ardèche, il y a un feng shui, je dirais, qui est parfait. C'est-à-dire que ma maison est adossée à la montagne, devant moi il y a une rivière qui coule. On est vraiment dans un contexte géographique parfait où l'union de l'homme, du règne animal, du règne végétal, etc., et on est dans le continuum. On n'est plus dans la séparation entre les règnes, mais on est dans une espèce d'harmonie, comme ça, spontanée et très naturelle. Voilà, donc c'est ça, j'ai réappris à regarder la nature et à la regarder avec un regard de taoïste et un regard de peintre.
Alors, le continuum, c'est, par exemple, quand vous ouvrez la porte et que vous êtes dans le brouillard et que le brouillard va durer longtemps, le continuum, c'est que le brouillard vous fait songer au brouillard des peintres chinois.
Oui, la première fois que devant ma fenêtre, j'ai aperçu une espèce de énorme nappe de brouillard. J'ai regardé ça d'un œil distrait. Et puis, quand tout doucement, ces nuages qui s'accumulaient dans le fond de la vallée, dans le fond de la chaude oreille, se mettaient à gravir les montagnes, à disparaître, et puis à faire apparaître de nouveau la maison du Réo qui est en face, les pins, etc. Bien sûr, je me suis retrouvé en Chine, dans les monts Huangshan, hein, la montagne de l'Empereur Jaune, où je suis allé aussi très longtemps. Et c'était une formidable surprise de me dire, mais la Chine, ce n'est pas seulement un pays, c'est aussi une peinture chinoise. Et avec mon expérience chinoise, je revisite l'Ardèche, je revois la nature avec mes antennes taoïstes.
Alors, c'est l'affaire de toute une vie que de savoir lire un paysage ou que de contempler une peinture chinoise. Donc, vos voisins, qui sont assez rares, qui sont souvent à plusieurs heures à pied, parce que vous calculez en fonction de la marche à pied, vous, hein, le Mont Mézin qui est à 2 jours à pied. Vos voisins, vous trouvez qu'aucun n'est idiot, et ils sont si peu idiots que ils pourraient être les contemporains de Zhuangzi.
Oui.
Les modèles, dites-vous.
Oui, parce que ces gens-là sont exactement comme ceux que décrivent Lao Tzu et Zhuangzi. Ce sont des gens, des artisans, ce sont des paysans, ce sont des gens qui ne sont jamais sortis de leur petit territoire, qui ont tout appris de la nature et qui finalement ont une maîtrise, un savoir qui est très proche de celui des taoïstes.
Et d'ailleurs, les grands du taoïsme choisissaient comme porte-parole, comme messager des travailleurs manuels.
Bien sûr. L'œuvre de Zhuangzi, ce n'est pas un traité de philosophie avec des concepts très abstraits, ce sont des fictions, on pourrait dire. Il décrit des personnages qui ont atteint le Tao, le boucher Ding, le nageur de la rivière, de la cascade Lu, etc. Des gens qui ont atteint cette connaissance de soi, qui sont le centre d'eux-mêmes.
Oui, mais enfin, vos voisins qui ont le regard pur, des gens qui ont l'horizon devant eux, je vous cite, hein, vous les idéalisez un peu quand même. Parce que, le facteur qui vous a amené là, il est mort parce qu'il buvait beaucoup. D'ailleurs, la boisson, dites-vous, en Ardèche, il faut concéder que...
Oui, évidemment, j'ai décidé d'idéaliser ce pays, qui est à la fois un pays très... où il est très difficile de vivre, un pays dur, mais qui a formé aussi la race de tout un peuple dont les derniers représentants que j'ai côtoyés, que j'ai trouvés admirables, qui m'apprennent énormément de choses grâce à leur savoir-faire, grâce à leur langage qui est bien à eux, qui n'est pas celui d'un supermarché de Seine-et-Marne.
Oui, oui, vous faites souvent la comparaison avec le supermarché de Seine-et-Marne. N'idéalisons pas l'Ardèche, n'idéalisons pas la Chine, on va repartir. En Chine, parce que régulièrement, vous mettez vos collections de peintures, de sculptures, vos livres dans des caisses et vous repartez en Chine. J'imagine que vous n'habitez pas Pékin, vous détestez les grandes villes.
Mais pas du tout. J'habite à Pékin dans une tour d'ivoire, au 24e étage du quartier de Fangzhuang, dans lequel j'ai emporté bien sûr l'Ardèche, comme j'avais auparavant emporté avec moi la Chine en Ardèche.
Alors nous allons essayer de voir avec vous où en est le taoïsme aujourd'hui à Pékin. Il y avait combien de temples avant le communisme ?
Il y avait à Pékin, à l'époque de la République, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un siècle, il y avait 3000 temples à Pékin, plus d'un millier dans la ville intramuros, et aujourd'hui, à l'école, au centre de Pékin de l'école française d'Extrême-Orient, Marianne Bujard, l'une de mes amies et collègues, a fait un programme sur les temples de Pékin. Et 4 volumes sont déjà parus, il y en aura 11, et le 12e volume sera sur les temples de la cité interdite. Mais personne ne connaît les temples de la cité interdite, qui sont tous fermés, et des 3000 temples de Pékin, il en reste moins d'une dizaine.
Alors ici, c'est un extrait d'un film de vous qui se passe au Nuage Blanc ?
Le monastère des Nuages Blancs.
Et dans ce monastère sont des moines célibataires, parce qu'il y a dans le clergé taoïste des gens qui sont dévolus aux familles, aux communautés, et puis d'autres qui sont appelés à l'ascèse.
C'est ça, il y a deux sortes de maîtres taoïstes, de véritables gens initiés, qui ont été ordonnés. Il y a à la fois la grande tradition des maîtres célestes, qui date de l'époque des Han, qui date du 2e siècle après Jésus-Christ. Ce sont des gens qui vivent dans la société, qui font des rituels pour les gens, pour l'inauguration d'un temple, des exorcismes. Et puis il y a la grande tradition monacale, qui a été calquée sur le modèle des bouddhistes, à l'époque vers le 12e siècle. Et aujourd'hui, il y a énormément de monastères de l'ordre Tuanzhen, la perfection absolue. Et le monastère des Nuages Blancs à Pékin est l'un des célèbres monastères taoïstes dans lequel il y a une centaine de moines.
Ma Dao Zhang, le grand maître rituel du monastère, en introduction aux cérémonies, fait une offrande d'encens aux 3 trésors que sont le Tao, les livres sacrés et les maîtres. Comme les fonctionnaires s'adressant à l'empereur, il a sa tablette de cour qui ici signifie qu'il est en audience devant les divinités du ciel. En chœur, il chante la randonnée dans le vide qui décrit la descente des dieux sur l'autel. Face à l'autel des 7 patriarches de l'ordre monacal de la pureté absolue auquel appartiennent ces moines, a lieu la lecture du mémoire qui va être adressé au ciel.
Il y a des rituels toute l'année dans le monastère des Nuages Blancs. Et on peut dire que le taoïsme, ce n'est pas seulement Lao Tzu et Zhuangzi, comme on le pense, c'est surtout une très grande tradition liturgique. Et dans le Daozang, le canon taoïste dont on parlait, 70 ou 80% des textes sont des textes rituels. Donc le rituel occupe une place prépondérante parce que c'est la communication avec le ciel, c'est la communication avec les sphères célestes, avec les puissances du ciel. Et aujourd'hui encore, cette tradition se perpétue. Il y a de très nombreux cultes stellaires qui se sont perpétués dans le taoïsme et on a entendu une partie des cultes à Domu, la grande divinité de la grande ourse. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très particulier. Les taoïstes, on peut dire, vivent dans un éternel présent. Et la communication qu'ils perpétuent avec le ciel, avec cette énorme cosmologie, parce qu'ils font des rites cosmiques, plus que des rites pas seulement pour les humains, eh bien, voilà, cette tradition, c'est véritablement le cœur de la tradition taoïste.
Mais il faut que chaque rituel soit adapté aux circonstances du temps et du lieu. On ne va pas mettre une musique d'hiver, adaptée à l'hiver en été, sinon on va faire tomber la neige.
Absolument, mais on célèbre les solstices d'été, d'hiver, les équinoxes, la fête de la lune. Le calendrier liturgique suit la marche du temps et des saisons. Donc c'est la liturgie taoïste est très proche de la nature, mais on célèbre également les anniversaires des saints au moment de leur naissance, par exemple. Donc dans le calendrier des taoïstes, il y a au moins 200 jours de fêtes qui sont célébrés lorsqu'on appartient à cette tradition.
Mais parlez-moi un peu des images dans les temples. Parce que vous m'avez apporté un livre, je suis très flatté parce que le président Macron a reçu le même il y a un mois, « Aux portes du ciel, la statuaire taoïste du Hunan ». Les images sont bénies, les images sont peintes ou sculptées dans un état particulier de méditation.
Oui, bien sûr. Mon livre sur la statuaire du Hunan, je consacre un long chapitre sur la consécration des statues. Parce qu'une statue, c'est un morceau de bois qui n'a pas d'âme. Et la consécration, c'est ouvrir les yeux, ça s'appelle le kaiguang, ouvrir les yeux, le nez, les oreilles, pour que ces statues deviennent des êtres vivants avec lesquels on peut communiquer. Parce que eux-mêmes, à travers ce rituel de consécration, peuvent voir, entendre, sentir. Voilà. Donc ces objets, et j'essaie d'expliquer aussi la particularité de ces objets à travers ce qu'André Breton appelait l'art magique. Parce que c'était véritablement un art magique. On est à la frontière du naturel et du surnaturel. Voilà. Et c'est ça la très grande beauté, je dirais, des traditions qui se perpétuent, c'est qu'on vit à la fois une partie de soi-même dans le ciel et en même temps en étant très présent sur la terre, puisque les taoïstes s'occupent également des communautés, fédèrent des communautés, et d'un autre côté, ils voyagent comme les immortels taoïstes de l'Antiquité.
Et puis, les fidèles marchent à pied, comme les Ardéchois, et vont dans des pèlerinages. Encore un son qui a été enregistré par vos soins au pic de la montagne merveilleuse. Ça vous a une allure de chaud d'oreille, ça, le pic de la montagne merveilleuse, c'est où?
Le pic de la montagne merveilleuse, c'est à 50 km de Pékin, c'est la montagne sainte de Pékin qui est dédiée à Bixia Yuantun, une divinité donneuse d'enfants, la divinité des nuages colorés. Et après 50 ans d'interruption, le grand pèlerinage de Miao Fangshan, qui existait depuis le 15e siècle, s'est mis à revivre. Il a été anéanti, il n'a plus existé. De 1937, moment de la guerre sino-japonaise, les Japonais occupaient le pic de Miao Fangshan, jusque à la fin des années 80. Et aujourd'hui, dans ce pèlerinage, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui viennent rendre hommage, rendre un culte à Bixia Yuantun.
Si la montagne est grande, son esprit l'est également. Si la montagne est petite, son esprit l'est aussi. Mais entrer dans la montagne sans connaître la bonne technique aboutit toujours au désastre. Il ne faut donc pas entrer dans la montagne à la légère.
On s'incline devant l'autel, on brûle de l'encens et avec le drapeau, le chef de la délégation ne tient pas son drapeau en l'air, il le baisse, il tient, c'est un fanion triangulaire. Il prend l'extrémité du fanion et il salue en le tenant à deux mains en disant « Tien Chang » avec sincérité. C'est comme ça qu'on se salue, c'est la terminologie des pèlerinages. On ne dit pas aux gens bonjour, on se dit « Tien Chang » avec sincérité. C'est le mot-clé du pèlerinage, c'est que tout doit se faire d'un cœur sincère.
Avec sincérité, Patrice Favard.
Mais oui, évidemment, c'est la clé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire semblant. Et les gens, aujourd'hui en Chine, vivent encore sous la protection des dieux. Et je dirais qu'il y a un concept très important en Chine, c'est celui du destin. Les gens pensent que leur destin aussi est inscrit dans le ciel, qu'il y a des puissances supérieures qui gouvernent d'une certaine manière leur vie ou qui expliquent certaines des de leur comportement, des actions, des faits et gestes de la vie quotidienne. Et on peut dire que le jour où nous-mêmes, on ne se réfère pas au destin pour tout expliquer, et nous sommes déjà sortis de cette notion depuis plusieurs siècles, mais aujourd'hui en Chine, il y a des devins dans toute la Chine, on va consulter les devins pour donner un nom à son enfant, pour changer de nom si vous est arrivé un problème. Et les maîtres taoïstes sont les maîtres du destin. La plus grande cérémonie qui vient d'avoir lieu à Pékin, dans le monastère des Nuages Blancs, c'est une manière de reconfigurer la carte du ciel des gens qui sont en conflit avec le dieu de l'année. Parce que le dieu qui préside à votre destin, le dieu de votre destin personnel et le dieu de l'année peuvent être en conflit. Si vous êtes, cette année nous entrons dans l'année du chien, si vous êtes d'un signe qui est défavorable, vous devez à travers un rituel, qui est le grand rituel du Tai Sui, reconfigurer votre carte du ciel pour vivre avec l'espoir que les constellations vous seront favorables. Et cette année, dans le monastère des Nuages Blancs, 10 000 personnes ont participé au grand rituel du Tai Sui, du dieu de l'année, et la participation à ce rituel coûte quand même 500 yuan, c'est-à-dire quelque chose comme 50 euros.
Et pourquoi dites-vous alors que nous sommes sortis de la religion à notre époque ?
C'est pas moi qui dis ça. Moi, je m'inspire, disons, de deux grands auteurs français. Marcel Gaucher, qui, dès son premier livre, Le désenchantement du monde, a construit toute son œuvre autour de cette idée que nous sommes sortis de la religion. Et moi, j'ajoute quelque chose dans mon livre, c'est que nous sommes, bien avant cela, sortis de la nature. Et je donne beaucoup d'exemples, entre autres Pétrarque, Le Mont Ventoux, etc. Et l'autre grand auteur auquel je me réfère, pas toujours, mais qui est présent dans ma manière d'observer les choses, c'est Philippe d'Escola, qui nous a appris à comprendre ce qu'étaient les sociétés traditionnelles et qui nous a appris surtout à comprendre qu'il n'y avait pas d'homme universel, mais qu'il y avait des systèmes de pensée différents. Et les Chinois ne sont pas une exception. Ils entrent dans les systèmes de pensée que décrit parfaitement Philippe d'Escola, bien qu'il esquive la Chine, et qui sont l'animisme et l'analogisme. L'animisme, c'est le Wan Wu Yu Ling, les 10 000 êtres ont une âme. Ça, c'est quelque chose qui existe en Chine depuis toujours et qui est encore quelque chose de très vivant. Et puis l'autre, l'analogisme, c'est le système des correspondances, c'est le grand système de pensée qui s'appelle le Yin Yang Wu Xing, le Yin, le Yang et les 5 éléments, qui est encore au fondement de la pensée chinoise. Il y a une citation de Michel Foucault que j'utilise qui dit que nous vivons à la fin de l'ère de la philosophie. La philosophie de l'Occident se termine. Et si une nouvelle philosophie doit naître, elle doit naître des percussions, des rencontres entre l'Europe et la non-Europe. Et je pense que le taoïsme doit favoriser cette rencontre.
L'usage du Tao de Patrice Fava chez Lattès, et puis dans la bibliothèque de Emmanuel Macron, et puis peut-être dans la vôtre aussi, aux Belles Lettres, à l'École française d'Extrême-Orient, aux Portes du Ciel. C'est un livre sur la statuaire taoïste du Hunan. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, avec à la technique Stéphane Boja, et la réalisation, c'était Audrey Ripouille.